Bonjour à tous. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo a lancé jeudi à Kinshasa le nouveau logiciel informatique pour la collecte et la transmission des données financières. Le BSA est une application informatique initiée par 12 banques centrales de la sous-région de la SADC. Matinée fiscale cette semaine à Kinshasa, la Direction générale des impôts a sensibilisé une centaine d'opérateurs économiques sur la taxe sur la valeur ajoutée. Celle-ci ne signifie pas de facto augmentation des prix des biens par le consommateur. Ce nouvel impôt qui entre en vigueur le 1er janvier prochain. Nous revenons aussi sur les plaintes des opérateurs économiques du Kasaï et du Katanga. Plaintes à l'endroit de la SNCC, ils sont mécontents du retard avec lequel la SNCC leur fait parvenir leurs marchandises. Deux invités dans cette rétrospective de l'actualité économique de la semaine. Il s'agit de Crispin Malingumu, il est assistant à l'UNIKIN et puis expert en économie. Également Willy Moudiaï, il est directeur de la supervision des intermédiaires financiers à la Banque centrale du Congo. À nos invités, d'abord à vous, M. Crispin, bonjour.
Oui, bonjour.
Et aussi à vous, M. Willy Moudiaï, bonjour et bienvenue à Panorama économique.
Bonjour.
Devant ce micro, pour vous présenter Panorama économique, Daniel Tampinsoni et Agathe Pona Elema. Agathe, meilleurs voeux à nos auditeurs.
Bonjour chers auditeurs, bonjour à nos invités, meilleurs voeux à tous ceux qui nous suivent à partir de la radio et d'Internet.
Et tout de suite, le dossier de la semaine.
Panorama économique, le dossier.
Ouvrons panorama économique par la Banque centrale du Congo qui est désormais dotée de nouveaux outils de collecte et de supervision des informations financières et bancaires.
Il s'agit du logiciel Bank Supervision Application BSA version 2, officiellement lancé jeudi à Kinshasa par le gouverneur de la Banque centrale du Congo. Ce logiciel informatique a été initié par 12 pays de la SADC en vue de permettre aux banques de la sous-région d'avoir une même compréhension des concepts du système financier. DDT avec Clovis Louboula.
Plus question d'effectuer des déplacements au quotidien vers la Banque centrale pour transmettre les états financiers périodiques des banques et des institutions financières de crédit. Ces documents seront désormais transmis à la BCC sous pli électronique. Le système procédera à un traitement automatique. Des erreurs seront décelées et renvoyées dans un temps record à l'expéditeur pour correction. Les états financiers en ordre seront rangés dans la base des données. Le BSA va favoriser un échange rapide et sécurisé des informations entre la BCC et les banques commerciales, ce qui va réduire le temps et la distance. Voilà quelques avantages parmi tant d'autres que présente le logiciel Bank Supervision Application inauguré par le gouverneur de la BCC en présence des banques commerciales et des institutions financières de crédit. Il est aussi appliqué dans le 12 pays de la SADC, initié en 2004 pour aider les États de la sous-région à avoir la même compréhension des concepts comptables et financiers contenus dans le système, ce qui a pour conséquence l'accélération et l'amélioration de la surveillance du système financier dans son ensemble.
Merci Clovis Louboula. Et c'est le temps de retrouver notre invité, c'est le premier, M. Willy Moudiaï, qui est directeur de la supervision des intermédiaires financiers à la Banque centrale du Congo. M. Willy, voulez-vous ajouter quelque chose sur ce reportage de Clovis Louboula qui a essayé de décrire un peu ce logiciel BSA que la Banque centrale du Congo vient de lancer?
Bonjour Daniel. Je crois que l'essentiel a été dit. Ce qu'il faut retenir quand on parle de BSA, c'est le sigle pour Bank Supervision Application. C'est une application informatique de supervision bancaire qui a été développée par 12 banques centrales de la SADC au niveau de la sous-région. Donc. Alors, c'est qu'il faut noter que le projet piloté par un comité, dit Bank Supervision Application Support Office, BSO en sigle, dont les quartiers sont basés à Maputo, au Mozambique. C'est ce que je peux ajouter par rapport à cela.
Oui, dans sa matérialité, comment les opérateurs, disons, les banques commerciales qui coopèrent avec la Banque centrale vont devoir utiliser cet outil?
Oui, c'est-à-dire que désormais, la communication donc, avec la Banque centrale ne se fait plus sur support papier. Hein. C'est l'avantage d'abord de cette application. Ce qui se passe maintenant, c'est que les états, les informations financières des établissements des crédits sont transmises à la Banque centrale par télétransmission, donc via Internet. Évidemment, comme il s'agit des informations délicates, tous les paramètres sont mis en place pour sécuriser ces informations. Alors, dès que ces informations arrivent à la banque, ces informations sont également traitées automatiquement, ce qui allège les tâches de supervision, je dirais même plus améliore la qualité de la supervision des établissements de crédit.
Ouais, Monsieur Willy, d'aucuns se posent la question, puisque toutes les institutions financières qui accordent des petits crédits et les banques commerciales, est-ce qu'elles vont se servir de cet outil-là pour échanger des informations entre elles? Peut-être la banque X peut connaître, avoir une idée sur ce qui se passe chez sa voisine Y. Est-ce que ce sera ainsi à travers cet outil?
Bon, d'abord, il faut dire que nous y allons pas à pas. On vient de lancer l'application, le logiciel BSA. Pour l'instant, c'est limité aux seules banques commerciales. Mais à terme, il est question d'y intégrer toutes les institutions financières, y compris ce que vous avez mentionné, donc les institutions de microfinance. Alors, s'agissant de la sécurité des informations, comme je vous l'ai dit, sans entrer dans les détails techniques que je ne connais pas parfaitement, parce qu'il s'agit des domaines informatiques, les instruments sont là pour sécuriser toutes ces informations qui arrivent en toute sécurité au niveau de la Banque centrale.
Le BSA a été initié par 12 banques centrales de la région de la SADC. Cela veut dire que les informations que la Banque centrale du Congo va poster sur le service sont également lues par d'autres banques centrales de la région de la SADC.
Non, pas du tout. C'est une mauvaise compréhension de logiciel. Ce logiciel est implémenté à la Banque centrale du Congo. Ce que nous pouvons faire dans le cadre des échanges avec les autres banques centrales, c'est les méthodes de supervision, c'est des informations en termes globaux, mais on ne peut pas communiquer les données individuelles des banques. Ce n'est pas ça c'est l'objectif de cet outil-là.
Et je pense que hier, lorsque les banques commerciales ont pu poser quelques questions, mais nous n'avons pas eu l'occasion d'y revenir, c'est lorsque, par exemple, les états financiers journaliers, lorsque la banque ne parvient pas à vous faire parvenir son courrier avant l'heure de clôture, qu'est-ce que vous avez prévu dans ces cas-là?
Bon, il faut dire que, des problèmes techniques peuvent survenir. Hein. Je vous dirais simplement que, d'ailleurs, ça c'est une deuxième version du BSA. Il y a eu une première version en 2004 qui n'a pas pu être implémentée en raison justement des contraintes techniques. Mais là, je crois que tout a été fait pour essayer de limiter au maximum ces problèmes, les contraintes techniques. Mais sait-on jamais, les données ne parviennent pas à la banque, la Banque centrale a pris toutes les précautions pour pouvoir contourner dans les meilleurs délais ces contraintes-là.
Merci beaucoup, Monsieur Willy Moudiaï, pour votre contribution à Panorama économique.
Bien, je vous remercie. Merci.
Merci beaucoup, et c'est le moment de retrouver notre deuxième invité qui va cheminer avec nous tout le long de Panorama économique. C'est Monsieur Crispin, qui est assistant à l'UNIKIN et puis expert en économie. Monsieur Crispin. Vous avez suivi, Monsieur Willy, de la Banque centrale du Congo, un outil comme celui-là. Bon, quand même, c'est à la pointe de la technologie. C'est une bonne chose pour l'économie, le circuit bancaire de la RDC.
Exactement. C'est une bonne chose. Ça montre que le pays est en train de s'améliorer et les outils de gestion sont en train d'être améliorés par-ci, par-là. Un deuxième élément que nous devons ajouter par rapport à l'intervention de M. Willy est que, comme lui-même l'a dit, donc cet outil va permettre l'accélération et l'amélioration de la qualité de la supervision. Mais néanmoins, nous devons préciser que les données statistiques qui seront transmises au niveau de la Banque centrale par les banques commerciales, ces données restent strictement confidentielles et ne pourront être destinées à la Banque centrale et non aux autres institutions. La seconde précision qu'il faut donner, comme M. Oudi lui-même l'a dit, donc ces données ne seront pas transmises aux autres banques de la sous-région, donc les 12 banques de la SADC, non. Mais ce qui est l'avantage de cet outil est que les données seront présentées dans, en suivant une même méthodologie, et ça permet à ce que la personne qui pourra tomber sur ces données puisse avoir la même possibilité de pouvoir les analyser et les interpréter.
Mm-hmm.
Donc, les mêmes données, lorsqu'ils seront transmises ou s'ils tombaient entre les mains de ces 12 autres banques centrales, ils auront la même logique et pourront être interprétés de la même manière.
Voilà, merci beaucoup, M. Crispin, pour ces précisions. Et c'est le moment de prendre le deuxième dossier de la semaine. La taxe sur la valeur ajoutée en République démocratique du Congo va entrer en vigueur le 1er janvier 2012. Il vient, comme vous le savez, remplacer l'impôt sur le chiffre d'affaires, Agathe.
Et c'était l'occasion, mercredi dernier, pour la Direction générale des impôts de sensibiliser les opérateurs économiques au cours d'une matinée fiscale. Contrairement aux craintes de la FEC, la TVA ne suppose pas nécessairement une hausse des prix des denrées de première nécessité, ce que nous précise ici Dieudonné Locadi, directeur général de la DGI.
C'est pas seulement avantageux pour l'État, mais aussi pour les opérateurs économiques. À la mesure où la TVA ne fait pas partie du prix des revient, ce qui leur permet de pouvoir améliorer des produits qui soient plus compétitifs qu'on a connu dans les systèmes ICA. Donc, il y a plusieurs avantages. Les autres avantages aussi, c'est de rendre attractif, en fait, les territoires de la RDC à l'investissement, de pouvoir aussi faciliter l'intégration de la RDC dans les regroupements sous-régionaux où on applique la TVA.
Mais est-ce que, comme les opérateurs économiques l'ont soulevé ici, la TVA engendrera nécessairement une hausse des prix des produits de première nécessité?
Pas nécessairement. D'ailleurs, nous avons dit que la TVA, on ne devrait pas prendre prétexte sur l'introduction de la TVA pour qu'il y ait augmentation des prix. Et nous avons pris des dispositions parce que avec le ministère de l'économie, la DGDA et la DGI, pour qu'il y ait un contrôle mixte de prix dans les premiers mois, pour qu'on n'utilise pas la TVA pour augmenter les prix.
Mais quels sont les changements auxquels les consommateurs doivent s'attendre avec la venue de la TVA?
Pour certains produits, ils pourront voir même le prix légèrement baissé ou bien être maintenu à son niveau. Donc l'impact sur le prix ne devra pas être important, comme je l'ai expliqué, parce que la TVA qui sera collectée au niveau de la douane, de l'achat des biens et des services à l'intérieur, ne devra pas être intégrée dans faire partie du prix de revient des entreprises.
Voilà, Dieudonné Locadi, le directeur général de la Direction générale des impôts, qui sortait d'une matinée fiscale cette semaine avec les opérateurs économiques. En ligne, nous avons notre invité, M. Crispin, la taxe sur la valeur ajoutée. Et vous savez, ce sera une nouveauté à partir de janvier. Et souvent, le changement de comportement au sein de la population, au sein des consommateurs congolais n'est pas chose facile. Là, on est en train de sensibiliser les opérateurs économiques. Je pense qu'il fallait mener de telles activités aussi du côté des consommateurs qui devront certainement sentir un changement dans les prix des biens de consommation.
Oui, exactement. Je viens de suivre ce que le directeur Dieudonné Locadi venait de dire. Cette TVA ne sera pas partie de la détermination du prix de revient auprès des producteurs ou même auprès des commerçants ou des opérateurs économiques. Mais la précision qu'il faudrait encore apporter, dire que cette TVA n'aura pas d'incidence sur les prix ou pourra entraîner la baisse des prix ou maintenir ce prix à leur niveau passé. Personnellement, je ne partage pas cet avis.
Justement, c'est ça la grande question. Sinon, on se dirait, bon, à quoi bon instaurer la TVA qui ne change rien et qui vient remplacer l'ICA?
Oui, donc comme lui-même l'a dit d'abord, nous sommes d'accord avec lui que la TVA pourra accroître les recettes de l'État, c'est-à-dire les recettes publiques. Deuxièmement, cette TVA aura une base plus large, donc une base d'imposition plus large, ça c'est vrai. Mais néanmoins, dire que cette TVA n'aura pas d'incidence si le prix, c'est pas vrai. C'est pas, économiquement, c'est pas vrai. Pourquoi? Puisque lorsque l'opérateur économique aura déterminé son prix de revient, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les charges qu'il aura engagées, soit pour produire un bien ou un service, soit pour importer un bien, c'est juste à ce moment-là, quand il aura augmenté sa marge bénéficiaire, qu'on aura à intégrer la TVA. Ce qui fait que cette TVA, sera beaucoup plus supporté par les consommateurs et non par l'opérateur économique. Ça, c'est une précision qu'il faudrait donner.
Et dans ce sens-là, on peut déduire que l'État est en train de chercher à tirer le drap de son côté, augmenter ses recettes au détriment même de ses consommateurs.
Non, pas nécessairement. C'est vrai que l'État cherchera à augmenter, non seulement il cherche à augmenter ses recettes, mais aussi il cherche à se mettre au niveau du standard international où tous les pays sont obligés à pouvoir appliquer la TVA pour avoir pour pouvoir harmoniser la fiscalité. Mais néanmoins, malgré que cette taxe, cette TVA sera ajoutée sur le prix de vente des produits ou services qui seront vendus, l'État peut appliquer d'autres stratégies pour minimiser l'incidence de cette TVA-là.
Quelle stratégie, par exemple?
Pardon?
Quelle stratégie il peut mettre en place pour qu'il n'y ait pas d'incidence sur les prix, une hausse des prix?
Ok. Supposons, par exemple, que il y a un opérateur économique qui importe sa marchandise, et lorsqu'il importe sa marchandise, l'État peut jouer par exemple sur les droits de douane. Il peut jouer sur les droits de douane en réduisant les coûts qu'aurait à supporter l'opérateur économique, et sachant qu'après il pourra récupérer ça d'une manière indirecte lorsqu'on aura à appliquer la TVA sur la marchandise ou les biens vendus.
Rapidement, M. Crispin, est-ce que vous pouvez nous dire, nous donner un exemple d'un pays qui a appliqué la TVA et qui a vu sa situation changer dans le sens positif?
Bon, plusieurs pays. Lorsque nous prenons par exemple les pays de la CEDEAO, tous les pays de la... Là, je ne veux pas aller dans les pays européens ou les pays développés.
Restons en Afrique.
La CEDEAO applique la TVA. Et en appliquant cette TVA, on voit la situation du gouvernement s'améliorer. Et cette situation s'améliore comment? Comme je l'ai dit tantôt, ça s'améliore en voyant les recettes de l'État s'accroître. Et à ce moment-là, lorsque ces recettes s'accroissent, l'État aussi a l'obligation de pouvoir mettre en place une bonne politique redistributive. Lorsqu'il aura à fournir des services publics à sa population, cela pourra être possible grâce aux recettes qu'il aura collectées à partir de l'application de la TVA.
Mais est-ce que vous pensez qu'actuellement l'économie congolaise est prête à recevoir la TVA et à l'appliquer?
Bon, on ne dira pas qu'il faudrait attendre 10 ans ou 100 ans pour appliquer cette TVA. Nous voulons d'abord, comme je l'ai dit, nous voulons situer notre pays et notre économie au standard international, et cela pourra nous faciliter, soit non seulement à pouvoir faciliter l'appréciation des méthodes de gestion que nous allons utiliser dans le pays par rapport à ce qui se fait ailleurs, ça c'est déjà un avantage. Donc, on ne pourra pas dire qu'il faudrait qu'on puisse patienter ou que le pays n'est pas disposé à pouvoir recevoir cette TVA actuellement. La TVA doit être appliquée, mais néanmoins, comme je l'ai dit tantôt, il faudrait qu'il y ait des mesures d'accompagnement pour minimiser l'incidence de cette TVA sur le vécu de la population.
Crispin Malingumou, assistant à l'Université de Kinshasa et expert en économie, il analyse et commente l'actualité économique avec nous dans Panorama économique sur Radio Okapi. Prenons le dernier dossier de Panorama économique avec cette plainte des opérateurs économiques du Kasaï oriental qui accuse la Société nationale de chemin de fer du Congo de lenteur.
Une lenteur dans l'acheminement de leurs marchandises. Ils indiquent qu'il y a près de 3 mois que leurs marchandises ont été chargées sur les trains en provenance des localités du Katanga vers Mwenedutu dans le Kasaï. Et ce conflit, il faut le dire, entre opérateurs économiques et leurs transporteurs, la SNCC n'est pas le premier du jour. C'est ce que nous raconte ici Nikem Poutou.
Nombreux sont ces opérateurs économiques qui disent n'avoir plus assez de confiance en la seule compagnie de transport par voie ferrée du Congo SNCC. À la base, selon eux, la lenteur ou l'incapacité de cette entreprise à acheminer dans le délai leurs marchandises à destination. Parmi ces commerçants, certains affirment avoir attendu 3 mois, d'autres plus, sans entrer en possession de leurs marchandises, longtemps confiées à la SNCC. Ainsi, certains redoutent l'avarie ou le vol de leurs biens pendant cette période. Témoignage d'un client de la SNCC.
Nous avons toutes les quittances SNCC parce que maintenant, 3 mois qu'on nous a servi les wagons et nous les avons déjà chargés. Mais quand nous essayons de nous plaindre auprès des autorités SNCC Monégasque, ils nous disent que la charge de tirer les wagons ne concerne que Kamina. Mais quand nous essayons d'atteindre Kamina, Kamina aussi nous renvoie à Monégasque. Alors nous nous retrouvons dans l'air. Même les escorteurs que nous avons laissés au niveau des wagons, ils ont déjà pris fuite. Les wagons maintenant sont en l'air, personne ne les protège.
Une position soutenue par la Fédération des entreprises du Congo FEC. Cette dernière pense qu'il n'y a rien à faire face à une entreprise qui ne remplit pas sa mission comme il se doit. La FEC se dit impuissante, surtout que la SNCC n'est pas responsable de toute perte de marchandises lors de l'acheminement. Dominique Ilunga, directeur provincial de la FEC.
Aujourd'hui, la SNCC a totalement failli à sa mission, ce qui est à la base de la délocalisation de l'opérateur économique dans le Kasaï. La SNCC est incapable devant même les pertes de marchandises de nos clients. Alors cette situation est défavorisante pour le commerçant, ne sécurise pas l'opérateur économique kasaïen.
À la SNCC, l'on lie tous ces problèmes d'abord à la situation politique au pays. Toutefois, les dirigeants de cette entreprise à Mouéléditou indiquent que les opérateurs économiques sont en partie responsables du désordre dans le transport de leurs marchandises. Les derniers à solliciter les services de la SNCC veulent être les premiers bénéficiaires, souligne Raymond Gadi, coordonnateur de la SNCC à Mouéléditou.
La SNCC est en train de travailler. Tous les jours ici, les locomotives roulent, les marchandises sont évacuées, les charges sont évacuées, à notre grande satisfaction. Chacun doit attendre son tour. Ce n'est pas parce que il y a trouble que la SNCC va faire entrer les 186 wagons à Mouéléditou le même jour.
Au regard du nombre de wagons de marchandises à Kamina, Kanyama et d'autres coins de la province, la SNCC souligne que son entreprise a la capacité d'organiser uniquement 3 trains tous les 4 jours. Mbujimaï, Nikemputu, Éco d'économie.
Bon week-end à toi, Nike Mputu, et surtout, nos meilleurs vœux pour l'année 2012. On va continuer dans ce dossier de la SNCC, mais cette fois-ci au nord Katanga, où le trafic ferroviaire est interrompu sur l'axe Kalemi-Kabalo depuis plus de 3 semaines.
Ceci fait suite à un éboulement de terrain, du coup impossible pour les opérateurs économiques d'effectuer leurs transactions. La SNCC a annoncé la semaine que ses ingénieurs étaient déjà à pied d'œuvre pour résoudre ce problème. Le reportage est signé Expédie Mwamba Mubi depuis Kalemi.
C'est depuis le 9 décembre que la rivière Kamikoukou a débordé à 55 km de Kalemi, entraînant avec elle la maçonnerie et les buses. Du coup, la voie ferrée reste suspendue en l'air, empêchant tout trafic entre Kalemi et Kabalo. Cet axe ferroviaire permet de relier la ville de Kalemi à Lubumbashi au Katanga, mais aussi la ville de Kalemi aux provinces du Kasaï et du Maniema. C'est par conséquent un axe vital pour l'économie des 3 provinces. L'association des commerçants de Kalemi s'inquiète de cette situation et demande à la SNCC de parer au plus pressé. Kennedy Salumu est leur président.
Vraiment, ça a eu des conséquences vraiment très énormes. Vous savez vous-même qu'un opérateur économique, le temps, c'est l'argent. Et surtout, celui qui a déjà chargé son wagon, et il a déjà payé la totalité, il attendait qu'il tire son wagon à la destination. Maintenant, il se trouve maintenant bloqué. Et surtout, la plupart des marchandises sont des marchandises périssables. Nous, en tant que syndicat de commerçants, nous demandons à la société de faire tout son mieux pour que cette situation de boulement soit vraiment arrangée au plus tôt.
À la SNCC, on affirme s'activer pour rétablir vite le trafic. Déjà, une équipe de techniciens a convoyé par avion des bus depuis la ville de Lubumbashi jusqu'à Kalemi. À l'heure qu'il est, indique-t-on, matériel et ingénieurs sont déjà sur le chantier. On ignore combien de temps les travaux pourraient durer. Les plus optimistes tablent toutefois sur le mois de janvier l'année prochaine pour voir le trafic reprendre. Kalemi, Expédie Mwamba Mubi, Radio Okapi.
Bon week-end aussi à toi, joyeux Noël, Expédite Mwamba Mubi, à toi et à tout Kalemi. Voilà, nous retrouvons en ligne notre invité, Crispin Malingumu. Vous êtes assistant à l'Unikin et puis expert en économie. Des difficultés de transport, vous savez, dans le commerce, la rapidité est une règle d'or à observer.
Exactement, la rapidité est une règle d'or à observer, mais néanmoins aussi, il y a des contraintes techniques face aux transporteurs. Donc, comme je venais de suivre les responsables de la SNCC, leur entreprise a la capacité de pouvoir faire circuler 3 wagons dans 3 ou 4 jours. Cela montre que la capacité de pouvoir déplacer la marchandise des opérateurs économiques et vers leur lieu de commercialisation n'est pas totalement suffisante.
Alors, lorsque les marchandises prennent, par exemple, 3 mois pour arriver, imaginez, et le bénéfice, et on risque même de rentrer dans le capital, on connaît la situation des opérateurs économiques congolais.
Oui, exactement, il y a risque, puisque dans un pays comme le nôtre, les opérateurs économiques tirent leurs profits essentiellement sur le nombre de rotations de leurs stocks. Donc, plus les stocks tournent rapidement, plus ils ont la possibilité de pouvoir rentrer dans leurs frais et de pouvoir faire des bénéfices. Mais lorsque, par exemple, ils importent une marchandise qui vient, par exemple, de Kasumbalesa vers Lubumbashi et qui doit se diriger vers le Kasai, et que cela doit prendre 3 mois, c'est vraiment des coûts énormes qu'ils supportent, et cela risque de nuire sur la rentabilité et ils ont la continuation de leurs activités.
Ok, nous allons nous faire un peu porte-parole de responsable de SNCC qui demande aussi aux opérateurs économiques de respecter l'ordre parce qu'il y en a qui viennent, à peine il vient payer ses frais, il veut tout de suite être servi, alors il faut respecter l'ordre de la préséance pour que la SNCC aussi rende convenablement son service.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance, reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Le reste de l'actualité de la semaine en plus bref, Agathe, la production du riz connaît un bon rendement en cette période de campagne dans la plaine de la Ruzizi. Nous sommes dans le sud Kivu.
Elle est passée de 5 à 9 tonnes par hectare de champs cultivés selon le Centre de développement intercommunautaire CDC Kiringue qui en a fait le constat lundi. Selon ce centre, ce rendement fait suite à 3 facteurs. D'abord, la bonne qualité de semences proposées aux paysans, aussi la gestion intégrée du sol avec les engrais chimiques ainsi que la réhabilitation des infrastructures d'irrigation. L'ingénieur agronome de CDC Kiringue, il s'appelle Mori Shoyuma, précise qu'il s'agit là d'un projet expérimental. Il est financé par l'Italie à travers la FAO et vise à améliorer la production dans les districts transfrontaliers au Rwanda, au Burundi et à la RDC.
Des exploitants miniers artisanaux des hauts plateaux d'Itombwe en territoire de Mwenga se plaignent de la baisse sensible de leurs activités.
Ils affirment qu'il n'y a plus de marché formé sur place pour écouler l'or, la cassitérite ou le coltan à cause de l'enclavement du territoire, ce qui entraîne une baisse de la production. Et ce, depuis le départ des grandes entreprises d'exploitation minière. Ils l'ont affirmé dernièrement au cours d'une mission conjointe humanitaire qui s'est rendue mardi dernier sur place à Mikenge.
Et puis, plus d'un millier de planteurs de tabac de l'Ituri en province orientale réclament l'argent de leur récolte de tabac. Ceci à la société Congo Tobacco Trader CTT.
Selon le directeur de projet de CTT, il reconnaît les faits. Sa société doit plus de 2 200 000 dollars américains à ses planteurs pour la campagne de tabac 2011. Il justifie le retard de paiement aux difficultés financières qu'ont connues leurs partenaires. Ces planteurs ont envahi mercredi les installations de la société CTT et ont pris en otage un ressortissant kényan responsable de cette société à Imbokolo.
C'est par là que nous allons terminer le panorama économique de cette semaine. Mais avant cela, M. Crispin, vous êtes en ligne, vous analysez avec nous l'actualité économique de la semaine. Sur cette série d'actu de la semaine, nous avons par exemple la production du riz qui a un peu augmenté en Ituri et les exploitants artisanaux qui se plaignent un peu. Sur l'une ou l'autre, un commentaire à placer avant de nous séparer.
Bon, là, il n'y a pas vraiment de commentaire à faire, malheureusement.
Et voilà, merci beaucoup, Monsieur Crispin Malinkoumou. Nous rappelons à nos auditeurs pour une dernière fois que vous êtes assistant à l'UNIKIN et nous croyons que beaucoup de vos étudiants de l'UNIKIN vous écoutent sur Radio Okapi. Un mot à leur endroit?
Oui, je profite pour les saluer, les encourager dans leurs études pour que demain ils puissent être productif pour le pays.
Merci beaucoup et joyeuse fête de Noël à vous. Agathe, une chose, comment ça se termine? C'est la fin de Panorama, je suppose c'est l'avant-dernier numéro de l'année 2011.
Voilà, merci à tous nos auditeurs et surtout aux internautes qui nous ont suivis à travers le monde entier. Prochain numéro de Panorama économique, vendredi prochain. Daniel Tambinzoni sera sûrement là, l'invité on le connaîtra, mais d'ici là, bonne suite de programme sur Radio Okapi. Retrouvez Écho d'économie à partir de lundi 18h15, à partir de mardi 18h15 heure de Kinshasa. Bonne suite de programme sur votre radio.
Joyeux Noël Agathe.
Meilleurs vœux Daniel et joyeux Noël à toi.
Et joyeux Noël à vous tous auditeurs de Radio Okapi. Très bonne suite de programme sur votre radio.